comprends pas. Je ne comprends pas.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de...
Professeur?
Ensemble sur Calade.
Le prof.
Alors attention, hein. Pas docteur, hein. Professeur. Hein.
Monsieur le professeur.
Et allez, on va parler d'économie avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
En forme, ça va bien?
Oui, il fait un peu froid, mais c'est pas grave, on survivra.
On va s'y faire. Bon, alors, on était en pleine étude de ce qui se passe entre l'Allemagne et l'Europe.
Ouais,
ils ont
ouais.
Une relation un peu compliquée, ces deux-là.
Tout à fait. Donc, la semaine dernière, comme tu le dis, Mathieu, on avait découvert avec stupéfaction que l'Allemagne, par la voix de sa Cour constitutionnelle, qui est l'équivalent allemand de notre Conseil constitutionnel, eh bien, elle se mettait au-dessus du reste des pays de l'Union européenne et se met même au-dessus des instances dirigeantes de l'Union européenne, puisqu'elle se donne le pouvoir d'exercer un veto sur n'importe quelle décision prise par une instance de l'Union européenne. Que ce soit la Banque centrale européenne, que ce soit la Commission européenne, elle se donne le droit d'exercer un veto. Et donc, je vous avais promis, chers auditeurs, qu'on s'intéresserait en conséquence à cette question brûlante. C'est quoi l'Allemagne dans le projet européen? Qu'est-ce qu'elle y fait dans ce projet européen? Et qu'est-ce qu'elle veut? On y va?
Allez, c'est parti.
Alors, commençons par un peu d'histoire récente. Commençons par, après la Deuxième Guerre mondiale, le projet européen, c'est à ce moment qu'il se construit explicitement pour mettre fin à toute guerre entre les pays européens, notamment entre la France et l'Allemagne. Dès les années 50, un projet de communauté européenne de défense va échouer, pas de bol. Échouer à cause des Français, hein, parce qu'il est vu comme trop atlantiste. Atlantiste, ça veut dire tourné vers les États-Unis, trop axé sur la soumission aux grands frères américains. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, il signe en 1963 un traité d'amitié franco-allemand. Mais le Parlement allemand, le Bundestag, ajoute au dernier moment un préambule à ce traité qui va déclencher la colère de De Gaulle, parce que dans ce préambule sont nommés les points suivants, sont mentionnés les points suivants. Une étroite association entre l'Europe et les États-Unis, admettre la Grande-Bretagne comme objectif, une défense commune dans le cadre de l'OTAN, et l'abaissement des barrières douanières avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, etc., dans le cadre du GATT. Bref, tout ce que De Gaulle avait expressément écarté de la rédaction du traité d'amitié. De Gaulle avait une vision un peu sourcilleuse de la construction européenne. Ces deux moments d'histoire nous permettent de mettre le doigt sur un premier hiatus, donc entre la vision française et la vision allemande du projet européen. Pour les Français, je vais y arriver, il s'agissait d'affirmer une pleine indépendance politique vis-à-vis des États-Unis, de bâtir une Europe des nations, tandis que du côté allemand, eh ben, il s'agissait plutôt de bâtir un ensemble économique sous le parapluie protecteur du grand cousin allemand, américain. Pardon. Donc pas du tout la même vision des choses. Alors on va avancer de 25 ans. Nous voilà maintenant à la fin des années 80. L'Empire soviétique s'effondre brutalement, soudainement, et l'Allemagne est réunifiée, à la consternation de beaucoup de dirigeants européens, Mitterrand en tête. En effet, même si c'est rarement dit à haute voix, un des objectifs prioritaires de l'après-Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours été dans l'esprit de ces dirigeants européens, la chose suivante, plus jamais une Allemagne suffisamment puissante pour retrouver ses tentations hégémoniques vis-à-vis de l'Europe. Bon, on peut dire que c'est raté. Hein.
Avec la réunification, effectivement.
Voilà, c'est raté. Alors la réponse de ces dirigeants, et Mitterrand en tête, hein, fin des années 80, va donc être d'arrimer l'Allemagne au projet européen, et notamment au projet de monnaie unique qui commence à être dans les cartons. Afin d'éviter qu'elle succombe à la tentation de reconstituer cette grande Allemagne sous le drapeau de son économie qui était déjà à l'époque surpuissante et de sa monnaie qui, déjà, fin des années 80, est déjà surpuissante et triomphante. Le problème, c'est ce que les dirigeants européens n'ont pas compris, c'est que si l'Allemagne elle-même manifestait à l'époque une forte réticence à jouer le rôle de leader dans l'Union européenne, alors bien sûr en raison de son passé historique et de sa culpabilité historique, elle n'en était pas moins résolue à imposer son modèle de gouvernance, son modèle économique et son modèle monétaire. Ce qu'ont pas compris également les politiques européens qui ont préparé le projet de l'euro, c'est le rapport de l'Allemagne à la question de la souveraineté. Vous voyez, on est au cœur de cette histoire de souveraineté quand on a la Cour constitutionnelle allemande qui pose son veto à toute décision potentielle de l'Union européenne. Deux commentaires sur cette question du rapport des Allemands à la souveraineté. Un, l'Allemagne a été, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui a été occupé par la puissance occupante que sont les vainqueurs de la guerre. Elle a dû se battre pour reconquérir sa souveraineté. Donc même si on a passé quelques décennies, la question de la souveraineté reste un sujet brûlant pour les Allemands. Deuxième remarque, la conception allemande de la souveraineté est totalement lié à sa monnaie et à la conception dont les Allemands envisagent une monnaie. L'Allemagne, elle s'est construite, il faut le savoir, en 1834, au 19e siècle, autour d'une union douanière et monétaire. C'est une union monétaire qui a permis l'apparition de la nation allemande. Elle s'est construite ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, autour d'un Deutschmark très puissant. Et enfin, début des années 90, elle accueille les Allemands de l'Est dans la réunification avec un cadeau qui est la parité égale entre le Deutschmark est-allemand et le Deutschmark ouest-allemand, ce qui était sur le plan économique n'importe quoi, une hérésie. Mais ils ont accepté, les Allemands de l'Ouest ont accepté ce cadeau. Ça, ils ont mis 10 ans à le digérer parce que c'était vraiment la question de du prestige de la monnaie. Vous voyez. Donc, conséquence de tout ça, comme on l'a dit, la création d'un euro qui est en fait une transposition directe des principes monétaires du Deutschmark a fait tout naturellement de l'Union européenne un espace de domination naturelle pour les Allemands. L'Allemagne a donc patiemment et méthodiquement travaillé à atteindre son objectif qui était, comme je l'ai dit, imposer son modèle de gouvernance économique et monétaire. Alors, en vrac, tout un tas de mesures, le calcul de la parité entre la monnaie unique et le Deutschmark a été fait bien à l'avantage des Allemands. Dès les années 90, des délocalisations d'entreprises massives vont être faites en direction de l'Europe de l'Est. Le rideau de fer est tombé, on en profite. Et l'Europe de l'Est, c'est les voisins géographiques immédiats des Allemands. Troisièmement, on part sur le principe d'une banque centrale totalement indépendante dont le siège est installé à Francfort, qui est conforme à la vision de la politique monétaire des Allemands. Cette politique monétaire est fondée sur une monnaie forte, comme les Allemands l'ont exigé et comme ils le faisaient avec le Deutschmark. Et petit à petit, au fil des années et des décennies, une augmentation régulière du nombre de technocrates allemands dans la machine bureaucratique bruxelloise. Bref, les Allemands ont avancé leur pion petit à petit au fil des décennies avec une grande discrétion et efficacité. Parallèlement, au début des années 90, la communauté économique européenne, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, est devenue l'Union européenne. Changement de nom, changement de philosophie. Exit l'Europe des nations chère à De Gaulle. Bonjour l'Europe libérale, fondée sur le principe désormais sacré de la libre concurrence et notamment sur le fameux ordolibéralisme allemand, c'est les principes politico-économiques allemands. Fini la politique industrielle publique, fini les grands projets européens type Airbus, tout ça, c'est désormais interdit. Il ne reste plus que la concurrence libre et non faussée. Alors tu vas me dire, c'est formidable, la concurrence, ça crée de la compétitivité, etc. Oui, mais il faut aussi savoir que la concurrence, ça favorise en premier lieu les acteurs économiques qui sont les plus puissants à l'instant T. Ça les met en position de force. Donc, début des années 90, l'industrie allemande, qui est dominante depuis la fin du 19e siècle, va constituer un pôle d'attraction autour de laquelle va se reconstruire l'hégémonie allemande, avec notamment, je l'ai dit, l'ouverture de l'Union européenne aux pays d'Europe de l'Est, dans lesquels les Allemands se sont dépêchés d'aller s'implanter. Mais pas uniquement l'Europe de l'Est. On aura la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie, les Pays-Bas, tout ça, renforcé par la proximité géographique des quatre plus grands ports européens, que sont Rotterdam, Anvers, Hambourg et Amsterdam. Tout ça, ça nous forme cette fameuse Europe du Nord, qui est sortie vainqueur du choc économique des années 2009-2010. Cette fameuse Europe du Nord qui surdomine économiquement l'Union européenne. Bref, Mitterrand voulait éviter la reconstitution de la Grande Allemagne en arrimant les Allemands à l'Union européenne. En fait, il leur a juste fourni clé en main le cadre de l'Union européenne pour leur permettre d'accomplir ce projet de la Grande Allemagne. Pour finir, Mathieu, si tu le veux bien, on va revenir à notre point de départ. On a vu la semaine dernière que la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe était très stricte sur la question de la souveraineté allemande, puisqu'elle, donc, je l'ai dit, elle s'arroge le droit de s'opposer à toute mesure européenne qui irait contre sa conception de la souveraineté. L'Allemagne peut bien affirmer la supériorité de sa souveraineté sur celle de tous les autres pays de l'Union européenne, sur l'Union européenne elle-même, puisque c'est l'Union européenne elle-même qui, sur un plateau, lui a offert le cadre juridico-technique qui a permis aux Allemands d'atteindre leurs objectifs. Mais les objectifs, j'avais parlé d'objectifs économiques et monétaires. Si on parlait d'objectifs politiques maintenant.
Ouais, c'est ce que je me demande, c'est voilà. Les chefs économiques, mais est-ce que c'est une grande puissance politique aussi
C'est une très bonne question. L'Allemagne a-t-elle un modèle politique qu'elle désirerait imposer à l'Union européenne? Alors, l'Allemagne a un modèle politique, c'est le sien, c'est un État fédéral, comme les États-Unis, avec aux États-Unis, c'est des États, et en Allemagne, c'est des régions fortes et très, très autonomes. Mais de façon étonnante, l'Allemagne ne cherche pas du tout à imposer ce modèle politique à l'Europe. Pas du tout. Pourquoi ? Alors, petite explication. On a vu avec la crise de 2010, les Allemands, du fait de leur culture protestante, ont eu et ont toujours un jugement extrêmement dur vis-à-vis des pays de l'Europe du Sud, où ils ne voient que du chaos, du laisser-faire anthropique, bref, tout un monde à l'opposé de leurs valeurs à eux, sens de l'ordre, de la hiérarchie, de la responsabilité, etc. C'est très simple, hein. Dans l'esprit des Allemands, il n'est pas question d'aller plus loin dans l'intégration politique avec de tels peuples, c'est-à-dire de l'Europe du Sud. Non, non, il n'en est même pas question. Ils ne veulent pas de fédéralisme avec les pays d'Europe du Sud. Donc on est dans une situation tout à fait paradoxale, Mathieu, d'une Union européenne qui, tu le reconnaîtras et tout le monde le reconnaît, est actuellement très instable, n'est pas très efficace. En dehors des actions de la BCE, elle n'est pas très efficace. Il suffit de voir le résultat au niveau des vaccins, par exemple, c'est une catastrophe. Qui est sujette aux critiques très fortes des souverainistes et des populistes, hein, c'est clair, et qui est largement dominée par un pays, l'Allemagne, dont l'intérêt est de rester dans un statu quo politique pourtant intenable. Donc, conclusion, l'affirmation de la souveraineté absolue de l'Allemagne par la Cour constitutionnelle allemande n'est qu'une façon pour les Allemands d'appeler un chat un chat. L'Allemagne, c'est le pays qui domine et dirige de fait l'Union européenne. Ouais. Mitterrand n'a plus qu'à se retourner dans sa tombe. J'en ai terminé, Mathieu.
Aïe, aïe, aïe. Eh ben, merci beaucoup pour cet exposé pourquoi est-ce que l'Allemagne, c'est la plus grande puissance européenne maintenant
Et qu'est-ce qu'elle veut en faire? Pas grand-chose. Elle veut rester au statu quo. Elle veut pas bouger les choses. Mais ce statu quo, il est pas bon. Hein. Il est pas bon. Il peut pas rester comme ça. On est dans une situation bizarre. Hein.
Mais c'est confortable pour l'Allemagne, en tout cas.
Totalement. Je te donne un tout petit exemple. L'Union européenne vient de signer un accord sur l'investissement avec les Chinois. Cet accord est reconnu par tout le monde comme un accord très négatif pour l'Union européenne, sauf pour un pays, pour les Allemands.
D'accord.
Et voilà.
Ok, bon, bah, on s'est tiré une belle balle dans le pied, j'ai l'impression, avec cette Union européenne.
Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Merci beaucoup, Patrick. À bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.